Alors pour les nouvelles, en ce qui concerne mon opération, donc j'ai vu le chirurgien et il m'a dit que le cancer n'avait pas eu le temps d'entrer de traverser les tissus. Donc il m'a dit, rassurez-vous, on a tout enlevé, on n'avait pas de chimio et on se revoit d'ici un an ou deux. Donc le Seigneur me prête encore un peu de vie, il faut que j'en fasse bon usage. Dans ce que je vais vous dire, on va retrouver un peu de ce que Manu nous a partagé. On va retrouver aussi un peu de ce qu'on a chanté. C'est vrai que l'actualité, elle n'est pas joyeuse, pas très joyeuse de ce qui se passe. Et le Seigneur regarde tout ça. Je ne crois pas qu'il a les yeux fermés ou qu'il soit occupé ailleurs, mais il regarde tout ça. L'homme naturel ne voit que ce qui est visible à ses yeux, ce qui a de l'apparence. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et ça me rassure. Dans l'un des livres des psaumes, au chapitre 11 et au verset 4, il nous dit « L'Éternel est dans son saint temple ». L'Éternel a son trône dans les cieux, mais ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils des hommes. Les yeux de Dieu voient tout. Je ne sais pas comment il fait. Parce que nous, déjà, avec la télévision, on voit plus ou moins tout quand ce n'est pas un petit peu corrigé ou modifié ou arrangé. Mais lui, il voit tout. Tout d'un coup. Donc, contrairement à ce que peuvent penser ceux qui nient l'existence de Dieu, l'Éternel, lui, n'est pas insensible à ce qui se passe sur la terre. Alors, si nous, ça nous sensibilise, si ça nous touche, plus forte raison, combien Dieu, ça le touche. Tout est à nu devant lui. Tout est à nu devant lui. Et il amènera toute chose en jugement par son Fils, bien-aimé Jésus. Ainsi sont les yeux de Dieu. Souveraineté, sainteté, jugement. Mais ils sont également amour et compassion. Je dirais même plus encore, parce que, chose incroyable, on a beau lire la Bible, hein, tant de fois, mais il y a toujours quelque chose qui fait que, un passage, quelque chose qui nous touche. Ce regard divin, qui est, on le retrouve dans l'Ancien Testament, où il nous est écrit ceci, que Dieu pleure. On a un Dieu qui pleure. Si je dis ça au monde, un Dieu puissant, glorieux, un Dieu fort, redoutable. On a un Dieu qui pleure. On a un Dieu qui pleure. L'image des larmes nous est donnée pour nous, en fait, pour que nous puissions saisir du moins à notre petitesse, que nous puissions saisir combien Dieu nous aime. Dieu pleura sur Israël, pour qui il a eu tant de soins, et pour qui l'ingratitude fut la plus complète. Elle l'a rejeté. Elle a détourné ses yeux vers d'autres dieux qui n'en étaient pas. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 14, verset 17, il nous est dit, « Tu leur diras cette parole, « que mes yeux fondent en larmes. Nuit et jour. Et qu'il ne cesse pas. Ces larmes divines sont des larmes divines. Elles ont été un jour visibles quand le Fils bien-aimé s'est présenté, quand il a marché sur cette terre en direction de Golgotha, en passant par Gethsémané. Ces larmes ont été vues. On le retrouve dans l'évangile de Jean. Jésus pleura devant les conséquences du péché à la mort d'un ami. Il pleura sur Jérusalem, la ville, au lieu de l'accueillir comme un roi, l'a rejeté pour son plus grand malheur. Ce peuple qui avait la forme de la piété, mais dont le cœur était éloigné de Dieu. Il pleura quand il accepta de son plein gré d'être fait péché à notre place. Il a enduré le châtiment qui va avec celui qui nous donne la paix. Les yeux du Seigneur Jésus n'étaient pas secs. Ils se sont souvent mouillés. Il fut à maintes occasions ému de compassion en voyant la misère humaine, et de toutes parts on lui emmenait les gens. On lui amenait les malades, les infirmes, les démoniaques, etc. Et c'est avec son amour et sa puissance qu'il répondait à l'attente de sa créature. Tout au long de son ministère d'amour et de grâce, Jésus leva les yeux vers son Père, en parfaite communion avec lui. Sa vie était en ligne directe avec le ciel. Mais cela ne l'empêcha pas aussi de regarder à la terre, de lever ses yeux sur l'humanité. Il y avait un parfait équilibre entre les deux. C'est ainsi qu'il a porté ses regards sur un père qui pleurait pour son fils, qui était jeté dans le feu, agité par des esprits. Qu'il a porté ses regards sur une mère qui était dans le deuil, sur des aveugles, des lépreux. Il a porté son regard aussi sur des foules qui n'avaient pas de berger. Il a porté aussi ses regards sur ses disciples, sur la misère du monde. Jésus ne tarda pas Il n'a pas attendu. Il a agi. Il a été fidèle en toutes choses. Et malgré tout ça, il ne s'est jamais détourné de son prochain. Ses yeux ne se sont jamais détournés de son prochain. Ses yeux pleins de compassion ne se sont pas dérobés à la souffrance humaine sans pour autant supporter le mal. La fin de son ministère approche. Il tourne sa face vers Jérusalem, mais il tourne aussi sa face vers cette croix. Cette croix qu'on a érigée pour lui. C'est ainsi que dans les derniers moments qu'il passe avec ses disciples, il leva les yeux et adressa à son Père sa prière qu'on retrouve dans l'évangile de Jean chapitre 17. Tout en gardant ses yeux ouverts sur ses disciples, pour les consoler, pour les protéger, pour les recommander à son père. Toujours équilibre. Pouvons-nous nous imaginer le regard du Seigneur face à Judas qui vint le livrer avec un baiser? Pouvons-nous imaginer le regard du Seigneur qui croise celui de Pierre après son reniement? Quelques heures plus tard, plusieurs vont le frapper et ils vont se dérober à sa vue. Dis-nous qui t'a frappé. Est-ce que tu le sais? Quelle question bête et stupide. En se moquant de lui, comme si que le Seigneur ne pouvait pas savoir qui le frappait. Lui qui pouvait sonder jusqu'au plus profond de l'âme humaine, comment ne pouvait-il pas savoir qui le frappe? Et que dire encore des heures terribles sur la croix, où ses yeux se sont consumés, nous dit la parole. Consumés par la haine, par la moquerie de ses ennemis. Dans les psaumes, chapitre 69, il nous est dit « Mes yeux se consument pendant que j'attends mon Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants. » Mais là encore, sa perfection nous remplit d'admiration, d'adoration. Dans la souffrance extrême, il pense encore au sien. Il pense à sa mère, il la regarde et il la remet aux soins de son disciple, Jean. Les yeux du Seigneur sont sur chacun d'entre nous. Même si nous ne le voyons pas avec notre vue naturelle, même dans la chute, il ne se détourne pas de nous. Il nous regarde avec amour. Et par la foi, nous pouvons faire l'expérience de Pierre qui a été saisi par le regard du Seigneur, un regard de miséricorde, un regard plein de bonté de son maître. Excusez-moi, je vais me moucher. Moi, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Prenons garde, car les yeux du Seigneur Jésus sont aussi comme une flamme de feu. Ne prenons pas cela seulement que pour les incrédules. Nous aurons tous, tôt ou tard, surtout nous en tant que chrétiens, à rencontrer les yeux du Seigneur et à le regarder face à face. Rien ne lui sera caché. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Même toutes choses sont à nu. Il a découvert, comme je disais tout à l'heure, aux yeux de celui à qui nous avons affaire, à qui nous rendrons compte. Quelques passages nous rappellent cela. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. À l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Certes, les yeux du Seigneur n'agiront pas de la même manière sur les incrédules que sur ces rachetés. Cependant, il est le Tout-Puissant, on l'a dit, il est le Saint, le juste juge. Pour ceux qui l'auront rejeté, cela sera le feu destructeur, le feu du jugement. Mais pour ces rachetés, pour ceux qui ont été graciés, les yeux du Seigneur seront comme un feu qui purifie, comme un feu purificateur, révélateur de la réalité et de la profondeur de notre foi. Comme le feu qui purifie l'or, chauffé à très haute température, et le libère de ses impuretés, le Seigneur jugera tout ce que les siens auront fait. Regardons à nos cœurs, sondons les réels motifs de nos actions, de nos paroles, de notre comportement. Ce n'est pas ce qui a beaucoup d'apparence et qui prend beaucoup de place aux yeux des hommes qui aura sa récompense. Le Seigneur juge, le Seigneur regarde au cœur. Ne l'oublions jamais. Il est bon de demander au Maître de voir comme il voit les choses, de mesurer comme il les mesure, d'avoir conscience que ses yeux sont sur nous et que nous serons bientôt face à face avec lui, que nous serons bientôt avec lui dans sa gloire, dont son regard sera celui de Dieu sur nous et jusqu'au plus profond de notre être. Ça, c'est une infime partie de ce regard du Seigneur. Et nous, qu'en faisons-nous de ce regard? Qu'en est-il de nous? Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Encore une chose qui m'a surpris dans cette parole, c'est dans Samuel, le chapitre 18, 1 Samuel, chapitre 18. Cette relation entre Jonathan et David. Ça me parle. David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. On en a parlé tout à l'heure et Manu aussi nous en a parlé de cet attachement. Jonathan l'aima comme son âme, pour de manière d'exprimer les choses. Je n'ai jamais entendu parler si bas. Jamais quelqu'un m'a dit un jour, écoute, je t'aime comme mon âme. Non, ça n'est jamais arrivé. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ôté son manteau. Il a ôté son manteau. Le manteau qu'il portait. Et il l'a donné à David. Il lui a donné ses vêtements. Il lui a donné son épée. Il lui a donné son arc. Il lui a donné sa ceinture. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Que dirait le monde aujourd'hui s'il lisait ce texte à propos de la relation, de l'affection qu'il y a entre ces deux hommes? J'en dis pas plus. Pourtant, ce sont eux, particulièrement Jonathan. J'en profite pour faire coucou à Jonathan s'il écoute ce message. particulièrement Jonathan, qui révèle ce genre d'amour étrange et incroyable, qui devrait exister entre un homme et son Dieu, entre le chrétien et son Seigneur. Cet attachement de l'âme. Ce matin, je regardais une émission où on interviewait une chanteuse et la personne qui l'interrogeait lui a dit « Qu'est-ce que vous faites avant d'entrer sur scène ?» Elle a dit « Je prie. Je prie pour que mon âme s'attache à eux. » Elle utilisait un peu la même expression. Pourtant, ce sont eux, qui, surtout en particulier donc Jonathan, qui a révélé ce genre d'amour qui devrait exister entre un homme et son Dieu, entre le chrétien et son Seigneur. Jonathan a devant lui David. David, il est de retour. Il est de retour de sa glorieuse victoire sur Goliath. Il tient la tête du Philistin dans ses mains. Pourtant, il nous est dit que Jonathan s'est arrêté à ses paroles. Après l'avoir entendu parler, son âme fut attachée à celle de David. Alors, quelle fut la base de son amour pour David ? On remarque d'abord que c'est après que David ait fini de parler que Jonathan fut bouleversé, qu'il fut touché. Il n'a pas été seulement frappé par les exploits, mais surtout par ses paroles. Est-ce que ce n'est pas les paroles du Seigneur aussi qui ont touché un jour notre vie, notre cœur, et qui fait que nous sommes là aujourd'hui ? Pour le chrétien, il est évident que Jésus a eu la victoire. Il a eu la victoire sur le diable, sur Satan, sur la croix, par sa mort, par sa résurrection. Il a eu la victoire totale. Cette victoire qui dépasse notre intelligence, notre compréhension. Mais aujourd'hui, est-ce que sa parole produit encore cet effet ? Est-ce qu'elle produit encore cet effet au point que notre âme s'attache à lui ? La Sulamite disait « Plus j'entends sa voix, plus je l'aime. » Dans le Cantique des Cantiques, la fiancée nous rappelle cela. « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Ou encore « Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. » Dans l'Apocalypse, on peut aussi retrouver « Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. » Quoi qu'il nous dise le Seigneur, est-ce que sa voix nous émeut encore aujourd'hui, toujours ? Est-ce qu'elle nous touche encore aujourd'hui ? Est-elle toujours aussi admirable ? Rappelons-nous aussi les circonstances dans lesquelles se trouvaient les disciples d'Emmaüs. Ils étaient dépités, découragés. N'est-ce pas la parole de Jésus qui fit à nouveau brûler dans leur cœur ce qu'ils avaient déjà à la base ? Leur cœur ne brûlait-il pas au-dedans d'eux, nous dit la parole. Parfois, on a besoin que le Seigneur nous rebooste. On a besoin parfois que le Seigneur nous remotive. Il sait bien le faire. Il en est capable. Ensuite, dans cette histoire entre Jonathan et David, on peut noter cette union d'âme, bien au-delà de la chair, une union d'âme. Ainsi, cet amour n'avait rien de commun avec le charnel, ni le sensuel. Il était totalement étranger à tout ce qui est sentimentalisme et tout ça, et humanisme et tout ce qu'on qu'on peut dire encore. Même si parfois toutes ces choses-là, parfois peut apporter du bon. Attention à ne pas nous tromper, à tout mélanger. D'ailleurs, David va remettre les choses en place, parce qu'après la mort de Jonathan, il dira ces paroles. « Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Au-dessus de l'amour des femmes. Quel amour incroyable. L'un des commandements de Dieu qu'il a donné à son peuple, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. » Par contre, on peut lire avec une grande tristesse ce que le Seigneur dit vis-à-vis du peuple d'Israël par la bouche de Jérémie. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Et pour chacun de nous, qu'en est-il ? Où est-ce que nous en sommes dans notre relation d'amour avec le Seigneur ?» La réponse pourrait être simple. Qu'elle est simple, quoiqu'elle nous demande beaucoup. Il suffit de voir les effets visibles et concrets qu'il y a eu entre Jonathan et David. Jonathan pour David. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Il y a de l'action de la part de Jonathan, qui pourrait se résumer en deux mots. Dépouillement complet. Il s'est dépouillé. N'oublions pas que Jonathan était fils du roi Saül, appelé à lui succéder, à exercer les plus hautes fonctions de l'État, je dirais, les plus hautes fonctions du royaume. Et pourtant, il va donner à David tout ce qui fait sa fierté, tout ce qui fait sa grandeur, sa force. Il va lui donner son manteau, ses vêtements. Je dirais qu'il serait symbolisé par sa dignité royale. Il va lui donner son épée, son arc, qui peuvent être symbolisés par toutes ses victoires. Il va lui donner sa ceinture, serait symbolisé par tout ce qu'il y a en lui, sa vérité, son authenticité, ce qui est vrai. Par amour pour Jésus, jusqu'où va notre dépouillement volontaire? Jusqu'où? Jusqu'où va notre dépouillement en ce qui concerne tout ce qui est de l'humain, du charnel? Moi-même, personnellement, j'ai encore des choses à lui donner. J'ai encore du terrain à lui céder. Il faut que je diminue et il faut qu'il croisse. J'ai pas le choix. Nous vous exhortons, à cause de l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Jésus a montré l'exemple. Fils de Dieu, vivant dans la gloire, existant pourtant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Ne pourrait-on pas dire, en quelque sorte, qu'en se dépouillant des symboles même de sa royauté, de sa dignité, Jonathan a prouvé son amour parfait pour David. Bien sûr, faisons toujours attention aux apparences. On fait passer certains actes pour des preuves d'amour. On en a plein dans le monde. Rappelons-nous que l'amour humain, charnel, peut produire des belles choses, je l'ai dit tout à l'heure. Et aussi l'apôtre Paul, dans le livre des Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour charnel fait de grandes choses et qui peut aller jusqu'à s'immoler par le feu. Les pharisiens priaient, jeûnaient, faisaient beaucoup d'aumônes, mais c'était pour être vus des hommes. L'église d'Éphèse faisait des belles œuvres, mais ce n'était pas avec l'amour du Seigneur. L'amour que Dieu demande, c'est le premier amour. Pas l'amour Eros et... Hein, je te regarde. Eros, l'amour, Eros et... Non. L'amour agapé. Non, parce que je prononçais un mot grec, je crois. Ouais. Je regarde mon professeur. C'est l'amour agapé. Un amour qui se donne sans condition, un amour qui se donne tout entier. C'est comme si qu'on était plongé au milieu de l'océan. C'est ça, c'est l'amour de Dieu. Aussi profond, aussi large qu'on n'en voit même pas le bout. Tellement profond qu'on voit même pas, on voit même pas le fond. Il y a même une, j'ai trouvé dans une traduction, un amour qui nous dévore. Pour Jonathan, malheureusement, cet amour-là n'a pas duré jusqu'au bout. Il y a un autre amour, alors Eros, mais il y a un autre amour, l'amour filial. C'est l'amour filial qui va prendre la priorité sur sa vie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on aime nos familles, mais rappelons-nous ce que le Seigneur a dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, sa fille, son fils, plus que moi, n'est pas digne de moi. Jonathan va quitter David pour suivre son père. Et on connaît la suite. Il va récolter la défaite et ensuite la mort. Mais si Jonathan avait continué à aimer David jusqu'au bout, comme sa propre âme, mais jusqu'au bout, tout en partageant ses afflictions, il aurait alors connu le règne et la gloire de David. Il aurait partagé son règne et sa gloire. Je vais conclure. Si aujourd'hui le Seigneur nous posait la question à nous aussi, comme il a posé la question à Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Qu'est-ce qu'on répondrait ? Oui, Seigneur, mais bon, tu connais toutes choses. Et j'entendrais bien me dire, alors, que ton âme reste attachée à moi et tu vivras. Il n'y a pas 50 000 solutions. Reste attaché à moi. Et tu vivras. Et je le remercie de m'avoir prêté encore vie. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec ça. Et pensons à prier les uns pour les autres. Que Dieu nous aide.